Décryptage, Loïc Bussière.
C'est un rapport qui paraît dans l'Hexagone au moment où l'Europe, justement, débat d'un changement de sa politique migratoire. Deux députés français interrogent l'intégration professionnelle des réfugiés et des demandeurs d'asile, un domaine dans lequel il reste beaucoup de progrès à faire. C'est ce qu'assurent Jean-Noël Barrot et Stella Dupont. Certes, les dispositifs d'accompagnement existent, qui impliquent des collectivités locales, les associations, les entreprises également, mais trop de barrières empêchent sur le terrain ces publics en difficulté d'accéder au marché du travail. Plus de souplesse, moins de raideur administrative, une stratégie nationale simplifiée, l'apprentissage du français comme clé de voûte de l'accès à l'emploi. Voilà quelques-unes des pistes que propose le rapport présenté hier à l'Assemblée nationale et sur lesquelles on se penche ce soir avec nos invités. Bonsoir Stella Dupont.
Bonsoir.
Vous co-signez justement ce rapport d'information sur l'intégration professionnelle des demandeurs d'asile et des réfugiés avec votre collègue Jean-Noël Barrot. Vous êtes député de La République En Marche de la deuxième circonscription du Maine-et-Loire. Avec nous également en ligne, Fatia Mlati. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de l'intégration à l'association France Terre d'Asile. Stella Dupont, je me tourne vers vous dans un premier temps. Qu'est-ce qui a motivé la publication de ce rapport ?
Eh bien, dans les missions de député, on sait que le député est un législateur, mais on sait moins souvent que c'est aussi celui qui contrôle l'action du gouvernement et qui évalue les politiques publiques. Et donc, nous avons souhaité nous pencher sur une loi votée en 2018, la loi Asile, Immigration et Intégration, et notamment nous pencher plus spécifiquement sur le volet intégration. Et donc, nous avons analysé finement la manière dont les mesures décidées il y a 2 ans étaient mises en œuvre. Et du coup, on s'est intéressé à l'apprentissage du français, qui est au cœur, bien entendu, de l'intégration, et puis aussi à l'accès au travail.
On va y revenir justement. Vous penchez sur la situation telle qu'elle était il y a 2 ans, donc en 2018. 2018, ça marque un tournant dans les politiques, justement, à l'égard des réfugiés et des demandeurs d'asile en France ?
Oui, effectivement, depuis 2018, le gouvernement a souhaité renforcer l'action en matière d'intégration. Par exemple, sur l'apprentissage du français, le nombre d'heures de cours de français a été doublé pour les demandeurs. Donc, c'était 200 heures, maintenant c'est 400 à 600, voire 900. On a des propositions en la matière pour l'avenir. Les moyens également ont été fortement augmentés. Par exemple, tout le budget de l'asile et de l'immigration, c'est 1,7 milliard d'euros en 2019. C'est plus de 10% de plus par rapport à 2018. Donc, c'est une montée en charge dont nous avons besoin par rapport, bien entendu, à un nombre de réfugiés et de demandeurs d'asile plus important depuis la crise migratoire, même si maintenant les choses sont stabilisées. 2015. Et puis, une volonté, justement, de mieux intégrer, de mieux accueillir.
Alors, Fatia Mlati, là, on parle ici de l'intégration professionnelle des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je voudrais justement qu'on revienne sur cette terminologie, qu'on fasse un peu de pédagogie rapidement. Réfugiés et demandeurs d'asile, c'est pas la même chose, hein.
Alors oui, ce qui distingue le demandeur d'asile et du réfugié, c'est que le réfugié statutaire, en fait, c'est la personne qui a obtenu la protection durable de l'État français et qui a vocation à construire un parcours d'intégration sur notre sol. La spécificité du réfugié, c'est qu'il ne peut plus s'adresser évidemment à son pays de provenance, de naissance, et il dépend de l'État qu'il protège. Alors que le demandeur d'asile est la personne qui se présente et qui, craignant pour sa vie, dépose une demande d'asile qui va être examinée par une instance indépendante qui est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Concrètement, voilà. qu'est-ce qui est possible aujourd'hui en matière d'emploi pour ces deux catégories de personnes, Stella Dupont ?
Eh bien, pour ce qui est des réfugiés, l'accès au travail est possible, bien entendu, puisqu'ils acquièrent une autorisation, ils sont protégés, ils acquièrent une autorisation à rester dans notre pays et bien entendu à y travailler. Donc l'accès est plus simple. en droit, mais dans les faits, cela reste compliqué et on pourra y revenir, notamment sur les questions d'apprentissage linguistique. Et pour les demandeurs d'asile, là, c'est le parcours du combattant réellement, hein, oui. Tant pour les personnes elles-mêmes étrangères que pour les employeurs. Un demandeur d'asile a le droit de demander une autorisation de travail après 6 mois, enfin 6 mois après avoir déposé sa demande d'asile. C'est l'état du droit. En France, d'ailleurs, on avait réduit cet aspect-là en 2018 dans la loi asile-immigration, puisque auparavant, c'était 9 mois d'interdiction de travail à partir du dépôt de la demande d'asile. Mais malheureusement, ce qu'on pointe dans ce rapport, c'est qu'on a très peu de données statistiques objectives pour analyser finement cet aspect-là de la réforme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas mesurer à ce jour quelle est la conséquence en matière d'accès au travail des demandeurs d'asile sur cet aspect, donc le fait qu'on puisse maintenant travailler plus tôt qu'hier. Mais en 2017, il y avait 1000 demandeurs d'asile seulement qui travaillaient dans notre pays, c'est-à-dire moins de 1%. Donc on est loin d'une intégration importante par le travail.
Fatia Mlati, est-ce que justement, sur le terrain, France Terre d'Asile, vous faites ce même constat que Stella Dupont ?
Ce qu'il faut préciser, c'est que le législateur a souhaité, alors il y a très très longtemps, en 1992, séparer les demandeurs d'asile des réfugiés. À l'époque, vous aviez une structure unique qui accueillait les demandeurs d'asile, futures éventuelles personnes protégées. Et cette distinction, elle est importante dans le sens où l'État considère ou a considéré pendant très longtemps plus précisément, que le demandeur d'asile, tant que sa situation juridique n'est pas clarifiée, c'est-à-dire qu'il obtienne le statut ou qu'il soit débouté de sa demande, n'est pas en droit de réclamer d'accéder au marché du travail, de se projeter durablement dans le pays d'accueil. Alors que le réfugié, la question de l'intégration se pose pour les réfugiés statutaires, parce que là, la détermination du statut permet évidemment à la personne de se projeter. Par ailleurs, l'opposabilité à l'accès au marché du travail a toujours finalement bénéficié de dérogations. J'ai vu que dans le rapport qui est très ambitieux, il propose évidemment que ce tabou qui existe depuis 20 ans de l'accès au marché du travail clairement affirmé pour les demandeurs d'asile soit qu'on saute le pas. Mais aujourd'hui, en termes de politique publique, l'intégration, c'est les réfugiés, donc les personnes protégées. Les demandeurs d'asile, sur ces dernières années, effectivement, il y a eu des ouvertures, notamment la possibilité d'accéder au marché du travail si la durée de procédure va au-delà de 6 mois. Mais on en reste là, ça reste marginal, parce que la question de l'intégration, elle ne se pose pas véritablement. Voilà. Puis par ailleurs, ça pourrait être une avancée majeure, mais il y a d'autres problématiques très très importantes au niveau des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, c'est que tous n'accèdent pas à un centre d'accueil spécialisé, à l'accès à un professionnel qui va les accompagner à faire leurs demandes et pour que le traitement de leur demande d'asile soit équitable. Voilà. Donc, ça dépend où on met le curseur. Hein. La problématique du premier accueil d'une demande d'asile est tellement prenante que...
Clairement, cette problématique première que vous décrivez, ce n'est pas l'emploi. Stella Dupont, vous hochiez la tête quand Fatia Mlati parlait d'un rapport très ambitieux. Est-ce que justement, cette manière de hiérarchiser les problématiques auxquelles sont confrontés les réfugiés et les demandeurs d'asile, elle n'est pas trop ambitieuse? C'est-à-dire que vous parlez effectivement de l'accès au travail, très clairement, quand des gens qui ont eu des parcours très heurtés sont plus en situation peut-être d'urgence.
Mais c'est vrai que là, on s'est concentré sur un aspect seulement de l'intégration au sens large. On ne s'est pas penché sur la question du premier accueil qu'évoque Madame Mlati. On ne s'est pas penché sur la question de l'hébergement. Le problème est vraiment global. Mais l'intégration par le travail, l'apprentissage du français, l'intégration professionnelle, la formation sont des facteurs clés et très important dans le parcours du réfugié. Quand bien même il faut que l'accès aux droits rappelé par Madame Lattie soit pleinement effectif. Et effectivement, il y a des difficultés sur les premiers accueils qui sont, ce sont des difficultés anciennes, relativement anciennes, et la crise sanitaire qu'on a traversée avec la fermeture d'un certain nombre de guichets ont quand même accentué les difficultés. Et le fait de reprendre un rythme, je dirais, plus classique, prend du temps, même si bien entendu les choses rentrent dans l'ordre. On a en plus des difficultés, je crois, plus globales sur ce sujet, puisque Madame Lattie parlait des centres d'accueil spécialisés. On peut parler des centres d'accueil des demandeurs d'asile. On a presque doublé le nombre de places depuis 2017, augmenté de 50%, passé de 30 000 à 45 000, près de 50 000 même fin 2020.
Quand l'arrivée, cela dit, des publics augmente également.
Bien sûr, l'arrivée des publics augmente, bien entendu. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de réfugiés restent dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile ou sont à la rue, dans les campements. Je me suis rendue à Aubervilliers il y a quelques semaines. Et vraiment, on a un problème d'accès aux droits, on a un problème de débouchés, c'est-à-dire d'entrée et d'intégration, certes dans la vie professionnelle, mais aussi dans un logement pour les réfugiés. Donc c'est un problème global lié à c'est une question de responsabilité pour la France, mais c'est une question de responsabilité globale européenne aussi. On est confronté quand même à un non-sens avec la réglementation européenne, la réglementation dite Dublin, que tous ceux qui s'intéressent aux questions migratoires connaissent.
C'est qui est remise en question justement en ce moment.
C'est aujourd'hui la règle, c'est que le pays.
C'est en débat à Bruxelles depuis hier.
Voilà, l'étranger qui arrive dans un pays en Italie par exemple ou en Grèce, c'est souvent le cas. Eh bien, ce pays reste responsable du statut et de l'autorisation à rester en Europe, en définitive, pendant toute la durée de la procédure. Alors, bien entendu, ces pays ne peuvent pas faire face et on a besoin de plus de solidarité. Eh bien, le fait qu'on ait une réglementation qui fonctionne mal, ça a des répercussions jusqu'en France, bien entendu, puisque lorsque un étranger qui est passé par l'Italie demande à être protégé par la France, aujourd'hui, la réglementation qui s'applique vise à le réorienter vers l'Italie, son pays d'origine, d'entrée en Europe. Alors même que cet étranger n'a pas du tout l'intérêt, l'envie, le souhait de demeurer en Italie. Donc on a un non-sens qu'il faut absolument lever. Donc je pense qu'effectivement, ce règlement Dublin n'a que trop duré.
Fatim Lattie, c'est quelque chose justement que vous mesurez, vous également, au quotidien, à France Terre d'Asile?
Sur le secteur de l'asile, de toute façon, la question du premier accueil des personnes qu'on appelle dublinées, c'est une problématique majeure. Allô ?
Allez-y.
Oui, et effectivement, elle impacte et elle est tellement visible que ça amoindrit finalement tout bilan positif et avancée majeure, parce que sur les 5 dernières années, des efforts extrêmement nombreux ont été faits. Mais aujourd'hui, le constat, c'est que moins d'un demandeur d'asile sur deux bénéficie d'une vraie un vrai accueil, un vrai accompagnement de qualité, et donc l'accès à une procédure juste et équitable. Vous avez aujourd'hui, selon l'information du directeur général de l'OFI, l'Office français de l'immigration et l'intégration, plus de 15 000 réfugiés qui sont en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et qui devraient en sortir pour libérer de la place, sauf que les problématiques d'autonomisation, d'accès à la langue, d'accès au logement pérenne posent souci.
Accès à la langue, accès au logement pérenne, donc accès à un travail. Stella Dupont, justement cette question de l'accès à l'apprentissage du français, je crois que vous y êtes particulièrement attachée dans ce rapport justement que vous publiez avec Jean-Noël Barraud, votre collègue.
Tout à fait. L'intégration, ça passe par le français. C'est une évidence. Et du coup, le fait qu'on double le nombre d'heures de cours, on a souhaité regarder de près ce que concrètement cela donnait sur le terrain. Il apparaît que c'est efficace puisque on a 16% de plus de gens qui réussissent à atteindre le niveau du français courant, du français requis. Donc c'est une bonne chose, ça démontre qu'il faut continuer, voire même renforcer d'ailleurs le nombre d'heures d'apprentissage pour les étrangers qui, dans leur propre langue maternelle, par exemple, ne savent pas lire ou écrire leur propre langue maternelle. Donc ça, c'est essentiel. Mais ce qu'on propose également, c'est que l'apprentissage du français aujourd'hui, il est réservé, entre guillemets, après un parcours long, aux réfugiés. C'est-à-dire à ceux qui obtiennent la protection internationale en France. Et du coup, nous considérons que compte tenu des parcours qui sont longs, on peut être la durée moyenne pour obtenir le statut de réfugié aujourd'hui, c'est 12 mois. Mais on sait bien que certains, c'est un peu moins, et puis d'autres, ça peut être davantage, voire beaucoup plus. Et du coup, apprendre le français plus tôt, ça permet de mieux s'intégrer, de découvrir la culture française également par la même, et c'est un facteur clé d'intégration. Donc pour ma part, je suis même favorable à ce que tous les demandeurs d'asile puissent accéder à des cours de français. Aujourd'hui, seuls des bénévoles, en définitive, permettent aux demandeurs d'asile de découvrir le français. Donc je pense qu'il faut qu'on aille plus loin, c'est un facteur d'intégration. Et puis pour la France, on parle parfois de rayonnement culturel, ben, ça passe par notre langue. Et donc ce n'est jamais du temps perdu ni des moyens perdus que de permettre à des étrangers sur notre sol, quand bien même ils n'y resteraient pas, ils iraient ailleurs ensuite, eh bien d'apprendre notre langue.
Fatih Amlati, on parle beaucoup avec Stella Dupont justement du temps trop long justement de certaines procédures pour accéder à un statut ou à un autre. Ça aussi c'est quelque chose justement que souhaiterait changer justement ce rapport, enfin que préconise le rapport d'information co-signé par Stella Dupont, d'aller un peu plus vite. C'est quelque chose que vous appelez également de vos voeux, Fatih Amlati ?
Effectivement, ça s'est amélioré. Moi, j'ai connu les années où les gens pouvaient attendre jusqu'à 4 ans, 5 ans. Là, on est sur une moyenne de 12 mois. Alors après, c'est plus subtil quand on regarde les nationalités. Évidemment, on souscrit complètement à ce droit à la langue. On a milité il y a de nombreuses années sur cet aspect-là. D'autant plus que si vous regardez les principales nationalités qui ont obtenu la protection internationale en France en 2019, c'est des personnes qui proviennent du Soudan, de la Syrie, de l'Afghanistan. Donc l'apprentissage de la langue, c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier aussi que ces populations sont anglophones et que c'est un atout pour notre marché du travail. Et ça, c'est suffisamment exploité, valorisé.
Je reprends justement un chiffre. Vous plaignez, Stella Dupont, d'avoir assez peu finalement d'éléments statistiques pour mesurer les problématiques auxquelles vous êtes confrontés. Je prends un chiffre justement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui dit qu'à l'issue justement, alors le parcours des réfugiés et des demandeurs d'asile, il passe par ce qu'on appelle un contrat d'intégration républicaine qui passe aussi justement par des cours de français, et qu'à l'issue de ce contrat, 60% des réfugiés sont sans emploi, alors que 9 sur 10 souhaiteraient exercer une activité. Là, on est en plein dans le problème que vous soulevez ?
Oui, on est au cœur du sujet. Et décrypter cela est essentiel pour améliorer la situation. Et donc, pour ces réfugiés, il ne faut pas oublier qu'ils ont été demandeurs d'asile pendant longtemps, et que pendant toutes ces périodes, la plupart du temps, ils n'ont pas travaillé, quand bien même ils le souhaitaient, parce que c'est vraiment difficile d'accéder à cette autorisation de travail. Une étude allemande, et on l'évoque dans notre rapport, qui a analysé finement deux groupes d'étrangers arrivant sur son territoire, un groupe qui a accédé très vite à l'emploi et un groupe qui a accédé très tard, après plus d'un an, à l'emploi. Il apparaît que durablement, ceux qui ont accédé très tôt à l'emploi, sont dans l'emploi durablement. Alors que les autres, au contraire, non seulement ils mettent du temps à y accéder, et ils ont du mal à y rester. Donc je crois que c'est quand même une analyse qui nous éclaire sur la bonne conduite à avoir. Il me semble que pour les personnes elles-mêmes, travailler, bien entendu, c'est des ressources, mais c'est aussi une place dans notre société, c'est une reconnaissance, une dignité acquise. Et se rendre compte que le fait de ne pas faciliter leur travail, alors qu'il y a des besoins aussi, bien entendu, il faut qu'il y ait des besoins et des postes à pourvoir dans notre pays, ne pas le faire, c'est quelque part nous fragiliser tous collectivement.
Et pour aller dans votre, abonder dans votre sens, je citerai le témoignage de cette Arménienne publié dans Le Monde cette semaine, justement, qui dit que quand les Français voient que les étrangers ne travaillent pas, eh bien, ça alimente le racisme. CQFD, merci Stella Dupont d'être venue jusqu'à nous. Merci également Fatiem Lati, directrice de l'intégration de France Terre d'Asile. À suivre sur RFI, le débat du jour avec Guillaume Nodin qui s'intéresse à la diplomatie à l'ère du Covid.